L'enseignement de Rav Volbé. On a l'habitude d'entendre, enfin de comprendre que avant la faute, oui. Allô? 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 Je croyais que c'était quelqu'un. Allô? On verra. Est-ce qu'on va ressonner? Oui. Bonsoir. On a l'habitude d'entendre que, enfin de comprendre que Adam Harishon, avant la faute,
Rav, ça fait des parasites.
Qu'est-ce qui fait des parasites?
Le téléphone quand vous l'avez posé.
Bon, mais il faut quand même que le téléphone.
Ça s'est calmé.
Adam Harishon, il était dans un état de perfection avant la faute, et que avant la faute, littéralement, il était lui-même la Torah, de par sa conception. Enfin, il était fabriqué par Hachem, il était dans le Gan Eden, il était parfait, il était dans une situation de Torah, c'est-à-dire où il était tout entier Torah. On trouve même qu'il a apporté un korban. Il avait des mitzvot, en tout cas il avait une mitzvot assez, une mitzvot lota assez. Il était dans le Gan Eden et c'est écrit qu'il y était, c'est-à-dire il était pour le travailler et pour le garder. Le travailler, c'est le prototype de la mitzvah positive, et le garder, c'est le prototype de la mitzvah négative, c'est-à-dire de veiller à ce que les choses ne soient pas, enfin certaines choses ne soient pas faites, et que c'est juste, c'est après la faute, il a eu besoin d'une Torah, de la Torah, puisqu'il avait perdu cet état de Torah dans lequel il était. Quand on voulait reconstruire un monde et un individu après la faute, on a besoin de la Torah. Mais c'est complètement faux. C'est faux parce que on voit de Chazal, il y a un Chazal qui rapporte que la Torah, ou plus exactement, Akadosh Baruch Hu a proposé à la Torah d'être donnée à tous les tzadikim depuis Adam y compris jusqu'à Moshe, et la Torah elle a refusé, elle les a tous refusés les uns après les autres, c'est-à-dire qu'elle a trouvé des défauts à tous, des défauts qui étaient pour elle rédhibitoires, comme sauf chez Moshe Rabbeinu. Elle a accepté d'être donnée à Moshe Rabbeinu. Comme si on avait affaire à une princesse qui refuse tous les prétendants et qui finalement, celui qu'elle veut, elle se manifeste, oui, lui ça me convient. La Torah a trouvé chez tous les tzadikim qui lui ont été proposés dans toutes les générations, les 26 générations entre Adam et Moshe Rabbeinu, elle a trouvé des défauts suffisamment graves pour qu'elle ne puisse pas accepter de leur être donnée, sauf à Moshe, elle ne pourra pas trouver de défauts. D'ailleurs, vous vous souvenez, on avait vu que le Rambam dit que Akadosh Baruch Hu, il a fabriqué Moshe. pour les besoins de la cause. Ou à ça, Moshe. Que Moshe, il a été calibré, enfin formaté exactement pour ça. Donc on voit clairement que Adam Harishon n'avait pas la Torah. S'il avait tenu le coup, s'il avait réussi l'épreuve, c'est-à-dire s'il avait accompli la mitzvah qui lui était donnée, alors il aurait pu recevoir la Torah, il se serait qualifié pour recevoir la Torah. Alors du coup, on est obligé de s'interroger et de... Parce que, puisque Adam Harishon, il est dans un état de perfection. Alors, d'une certaine manière, il faut comprendre que c'est une perfection, mais que à cette perfection, on peut encore ajouter quelque chose, et ce quelque chose-là ne peut lui venir que par la Torah. C'est-à-dire que la Torah est là, premièrement, on voit, elle a de quoi compléter le Tselem Elohim, l'être à l'image d'Elohim, qu'est l'homme. Être à l'image d'Elohim, c'est énorme. C'est Adam Harishon, c'était avant, c'était Adam Yisof Haolam Vead Sofo, d'un bout à l'autre du monde, il connaissait tout, etc. Mais là, néanmoins, il y a encore une place pour la Torah. Il y a quelque chose qu'il n'a pas et que la Torah peut lui donner. Donc la Torah, elle va donner quelque chose, y compris à quelqu'un qui est Betzelem Elohim, qui est à l'image d'Elohim. Alors on est tous à l'image d'Elohim, mais lui, il est à l'image d'Elohim et a priori, avant la faute, il est parfait. Pour se rendre compte de la grandeur de Adam, le fait qu'il ait été désigné par Hachem pour nommer les choses. Nommer les choses, ça veut dire qu'il savait exactement ce qu'elles étaient. Ou plus précisément, nous mettre en scène que le monde a été créé avec des lettres. Lui, quand on lui a montré les créatures, il savait exactement avec quelles lettres ces créatures avaient été créées, et ce sont ces lettres-là qui sont mises bout à bout, qui sont le nom de cette créature. Le nom de la créature, c'est au fond, c'est ce qu'elle est en termes de lettres. Dans le monde, les briques les éléments avec lesquels la créature en question est fabriquée, ce sont des lettres, et ce sont les lettres qui composent son nom. Quand il a nommé, c'est révélateur de ce qu'il sait jusqu'au bout, exactement de quoi sont faites toutes les choses. Ça, c'est Adam Harishon.
Quand on dit que la Torah les a refusés, je ne sais pas bouger, sauf Moshe, ça veut dire qu'Adam Harishon, dont on parle, par exemple, peut-être qu'il ne l'a pas reçu.
Non, non, il n'a pas reçu.
Ça veut dire qu'il n'a pas reçu. Elle n'a pas été inscrite en lui.
Oui, elle n'a pas voulu. Elle était inscrite d'une certaine façon, mais elle n'a pas voulu lui être donnée. Comme une épouse, elle ne voulait pas l'épouser.
Ah, d'accord. Elle l'a pas reconnue
en quelque sorte. Ouais, t'es pas à la hauteur, quoi.
Ouais,
la Gdusha d'Adam Harishon, avant la faute, elle était telle que les Malachia Charet se sont prosternés devant lui, ils l'ont confondu avec le Créateur, dit le Midrash. C'est ce bonhomme-là, il lui manque quelque chose. Il a quelque chose, un manque qui est rédhibitoire. Il ne peut pas recevoir la Torah. La Torah se refuse à lui en quelque sorte.
Adam c'est un manque inhérent à la création même du monde.
Alors, c'est un manque à la création, peut-être pas complètement. Ils sont appelés des tzaddiks. Chacun, on n'a pas présenté les rechaïm à la Torah. On a présenté kol tzaddik ve tzaddik depuis Adam jusqu'à Moshe Rabbein. Le Nefesh HaChaim, il s'interroge, il remarque qu'on dit qu'il est Tselem Elohim. On ne dit pas qu'il est Tselem Shakai ou Tselem d'un autre nom divin. Tselem Elohim. Dans le tour, dans Shulchan Aruch, il dit que le mot Elohim, le nom divin Elohim, ça veut dire Baal Kol HaKochot. Il est le maître de toutes les forces. Il y a une version profane du mot Elohim qui veut dire toutes les forces s'appellent des Elohim, y compris un tribunal, c'est aussi un Elohim. Il y a une force.
Tselem, c'est quoi?
Tselem, c'est à l'image d'eux. Et l'homme devait dominer le monde entier, il devait dominer sur terre, sur mer, dans les airs, les oiseaux, les poissons, etc. Donc, en vérité, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui lui manquait à Adam Harishon avant la faute? Il lui manquait quelque chose, et cette chose-là, elle est dans la Torah. Si on regarde le langage tenu par le Nahash à Chava et à Adam, le serpent, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous savez pourquoi Elohim ne veut pas que vous mangiez les fruits du Etzadat, Tovara? Parce que, ki biyom achalchem imenu, le jour où vous aurez mangé de cet arbre, des fruits de cet arbre, venifkuchu enechem, vos yeux se dessineront, s'ouvriront, vitem, et vous serez ke Elohim yode tovara, vous serez comme Elohim, vous saurez, vous connaîtrez la différence entre le bien et le mal. Et Rashi explique que quand il dit yodea Elohim, Elohim sait que, voilà, si vous mangez alors, Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire que Yodéa? Rashi rapporte que tout artisan a de la haine pour les artisans, les autres artisans dans la même branche, donc les concurrents. Et donc, ça veut dire ici, si Elohim a pu créer le monde, c'est parce qu'il a mangé de fruits, etc. Voilà. Donc il sait très bien que si vous en mangez, vous serez comme lui. Et donc il veut vous empêcher de faire. Et Rashi veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, vi'item ke Elohim? Vous serez comme Elohim. Et Rashi dit, c'est la différence, yotzre olamot, créateur de monde. Vous serez capable de créer des mondes. Donc c'est ça l'histoire. Adam Harishon était énorme, il était très 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 grand. Il connaissait, il pouvait nommer toutes les créatures. Une fois qu'on lui présente une créature, il peut l'analyser parfaitement. Il décortique, il trouve la formule, etc. Il connaît tout. Il a une chokhma qui est plus grande que celle des anges, dans le service. Il connaît le Ruach HaKodesh, il connaît l'inspiration, l'intériorité de toutes les créatures. Il sait avec quelles lettres on les a créées. Mais lui, il ne peut pas créer. Il est incapable de créer. Il ne peut pas créer. Et c'est ça qu'il cherche. Alors, il sent, je connais parfaitement, mais je ne peux pas créer. Et donc, il est à la recherche de qu'est-ce qui me permettrait de créer. Et c'est pour ça que le Nahash lui dit, si tu manges, tu pourras créer. Non, c'est faux parce que c'est pas cet arbre-là, il faut manger de Tzachaïm pour pouvoir créer, mais bon, Alors maintenant, ok, mais qui nous dit qu'avec la Torah on peut, oui, créer? D'accord, lui il ne peut pas créer, on a compris. C'est marqué dans Pirkei Avot, Chavivin Israël, Shenitan Lahem Kli Chemda. Les Bnei Israël sont très chers à Hachem, et la preuve de ce qu'ils sont chers, c'est qu'il leur a été donné Kli Chemda, c'est-à-dire un instrument extrêmement précieux. Qu'est-ce qu'on... Chiba Yetera, il y a un amour extraordinaire qu'il leur a été manifesté par le fait qu'Hachem leur a donné ce précieux instrument Shebo Nivra Ha'olam, avec lequel le monde a été créé. On a un Chazal qui dit, Istakel Be'or, Hachem a créé la... Bien sûr, c'est lui qui a créé la Torah, mais ensuite, Istakel Be'oraita Uvara Alma. Il a regardé dans la Torah et il a créé le monde d'après ce que la Torah disait. Il ne s'agit pas ici simplement de dire des belles choses sur la Torah. La Torah est formidable. C'est la définition de la Torah. La Torah, c'est l'instrument avec lequel on crée les mondes. Et lorsqu'elle a été donnée aux Bnei Israël, on leur a donné le moyen de créer des mondes. Et c'est ça la Torah. Adam Arishon le cherchait, il ne l'a pas trouvé. Il ne l'a pas trouvé parce que la Torah ne voulait pas lui être donnée. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné la capacité de créer les mondes. C'est-à-dire, Tselem Elohim, c'est gigantesque, c'est la connaissance complète du monde. Mais ça ne permet pas de créer le monde. Cette expression de Boré Olamot, de Tselem Olamot, Boré Olamot, créer des mondes, en vérité, tout le monde crée des mondes. On n'arrête pas de créer des mondes. On pourrait dire qu'on arrête, c'est tout ce qu'on fait tout le temps. Il ne faut pas considérer que... Il ne faut pas être effrayé par cette expression « créer des mondes ». En vérité, il y a toutes sortes de mondes. Il y a des gens qui créent des mondes imaginaires, virtuels, des mondes de désir, des mondes de yetzer, de pulsion, de... Mais toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne sont pas durables, des choses qui n'ont pas de valeur, mais c'est à ça qu'on s'occupe la plupart du temps. Et probablement que ça, Adam Arishon aussi savait le faire. Puisque nous, on sait le faire, sans la Torah aussi, il savait le faire. Seulement les mondes que Adam et que Adam s'est créé, savait créer, c'est des mondes... des mondes justement imaginaires et qui avaient un parfum de faute, de chète. La Torah, c'est le Kli Chemda, c'est cet instrument autrement désirable en fait, avec lequel on crée des mondes réels. C'est l'imaginaire d'un côté, le réel de l'autre. C'est-à-dire, c'est des réalités spirituelles qui ont l'éternité. C'est au fond la puissance des mitzvot. Et c'est ça toute la Torah en fait, cette capacité de créer des mondes. En d'autres termes, si on voulait donner une image, Adam Arishon, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien le réseau, un réseau électrique ou autre, il connaît tous les détails du réseau, mais il n'a pas accès à l'interrupteur central. S'il y avait de l'électricité dans le réseau, il saurait exactement ce qui se passe. Mais il n'a pas accès. Et la Torah, elle donne accès à cet interrupteur central. le Beth Din d'en bas, notre Beth Din, il tranche, il détermine les mois, les années. Donc il a la maîtrise du temps. Avoir la maîtrise du temps, c'est quasiment avoir la maîtrise presque de tout, si on maîtrise le temps. Donc là, l'Israël a une puissance également, on pourrait dire, j'ai déjà expliqué qu'en fait, je ne sais pas exactement pourquoi ça a été permis, mais c'est révélateur. Quand les Bnei Israël ont conquis Eretz Israël, les Bnei Gad et les Bnei Reuven, et la moitié de la tribu de Menaché, on dit, avant de franchir le Jourdain, ils venaient de l'extérieur, il fallait franchir le Yarden, le Jourdain, ils sont arrivés dans cette contrée, avant de franchir le Jourdain, et les gens de ces deux tribus et demie, là, Reuven, Gad et la moitié de Menaché, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ils ont dit, cette région-là, c'est une région de pâturage extrêmement riche. Et nous, on a énormément de troupeaux. On veut rester ici. Nous, on veut ça comme territoire. Alors, d'abord, ils se sont pris une engueulée sérieuse par Moshe Rabbeinu, qui les a traités de tous les noms, parce que vous êtes des lâches, vous recommencez, vous laissez tomber les autres. Ils ont dit, non, pas du tout. On va faire la guerre avec tout le monde. On va conquérir Eretz Israël. On va passer le Jourdain. Nous, les soldats. Mais on va installer nos troupeaux, nos familles. Et ensuite, on ne reviendra chez nous qu'après que tout le monde, tous les autres seront installés. Okay. Ça a été accepté, ça a été agréé. Et j'ai une grosse question. A priori, on voit que ce n'était pas le plan initial. Le plan initial, c'est que tout le monde franchisse le Yarden, le Jourdain, et qu'on s'installe de ce côté-là du Jourdain, entre le Jourdain et la mer. Et donc, on allait partager Eretz Israël en 12 territoires de 12 tribus. Et qu'est-ce que ça veut dire que chaque tribu allait recevoir une part d'Eretz Israël? Ça veut dire que on allait donner à chaque tribu la partie d'Eretz Israël qui allait lui permettre de s'épanouir au maximum. C'est son lieu par excellence, là où elle va pouvoir, cette tribu, donner ce qu'elle est capable de donner. On va mettre ceux qui ont à voir avec la mer, on va les mettre au bord de la mer, on ne va pas les mettre du côté montagne, enfin du côté des collines de Yehuda, on ne va pas mettre Zvouloun, c'est la mer, c'est les marins, on va les mettre au bord de la mer, évidemment. Donc chacun va être à l'endroit qui lui convient pour, spirituellement et matériellement, s'épanouir. Et ça, c'est Eretz Israël. Deux tribus et demie qui n'entrent pas, ça veut dire qu'on va partager un territoire qui était normalement partagé en 12, et où chacun avait exactement le territoire qui lui convenait. Du fait qu'eux n'entrent pas, on va partager en 9,5 ce qu'on voulait partager en 12. Du coup, personne ne sera à sa place. Ils n'auront pas le territoire qui leur convient. Puisqu'on va partager on va désormais partager en 9,5 ce qui devait se partager en 12. D'une certaine manière, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les hommes, les Bnei Israël ont un pouvoir ici de changer la face du monde. C'est la face de tout Eretz Israël. Est-ce que les Eretz Israël pouvaient être vaincus si chaque tribu était exactement à sa place? Peut-être que par le fait que eux étaient de l'autre côté du Jourdain, donc ils étaient les plus exposés. C'est vrai que c'est eux qui ont toujours pris, quand il y avait la guerre, c'est eux qui prenaient tout d'abord. Mais justement, le fait qu'eux soient de l'autre côté, ça permettait aux ennemis d'entrer en Israël plus facilement. Il suffisait d'entrer par eux. Il y avait probablement la communication était établie entre eux et l'autre côté du Jourdain. Donc il suffisait d'entrer chez eux pour pouvoir entrer en Eretz Israël plus facilement. Donc même du point de vue de la stratégie, on ne comprend pas pourquoi on a accepté une chose pareille. Ça a été accepté. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes, exactement comme Hazal disent que les Malachi HaSharet ont demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est quand Rosh Hashanah? C'est-à-dire, tout le monde est jugé à Rosh Hashanah. Alors, c'est quand Rosh Hashanah? Alors Hachem me dit, on va demander au Bedin Shel Mata. C'est les Juifs qui vont décider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même si à vue humaine, on pensait que Rosh Hashanah, ce serait tel et tel jour, mais si entre-temps, le tribunal décide que le mois de Av ou le mois d'Eloul sera plus long ou plus court que ce qu'on avait prévu, ben Rosh Hashanah va être décalé. C'est-à-dire qu'on dira à Hachem, tu peux fermer tes livres, ça se passe demain. Donc les Bnei Israël changent l'ordre du monde, en fait. Une puissance qui est donnée aux Bnei Israël, après qu'ils aient reçu la Torah, c'est comme nous disons, c'est pour ça que cette différence qu'on fait entre Mekadesh HaShabbat, dans la bracha du Shabbat, dans la Amida, on dit, bah, Fata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Hashem sanctifie le Shabbat. Mais pour Yom Tov, on ne dit pas comme ça. Pour Yom Tov, on dit Mekadesh Israël Ve'azmanim. Ça veut dire Hashem donne la, sanctifie Israël, qui à son tour sanctifie le temps. Le Shabbat, il vient indépendamment de nous, tous les 7 jours, ça revient. Mais le temps est lié au calendrier, le calendrier, c'est nous qui le décidons. Donc il y a la maîtrise du temps, il y a même maîtrise de l'espace par l'histoire de l'installation en Eretz Israël.
On dirait qu'ils ont réécrit l'histoire.
Oui, il va écrire sans arrêt l'histoire. La Torah, elle a un regard différent d'une autre sur certaines choses. Dans le récit de la création des Meorot, des luminaires, Vayomer Elohim yehi Meorot birkei ha-shamayim, qu'il y ait des luminaires, dit Elohim, au ciel, lehavdil min hayom, ben hayom ben halayla, pour faire la différence entre le jour et la nuit. Vehayu, et ces luminaires seront le Otot, le Moadim, le Yamim, Veshanim. Ou le Yamim, Veshanim. Vehayu, le Meorot, Birkia, Shamaim, le Haïr, Ala, Aretz, Vaïchen. À quoi servent les Meorot? À quoi sert le soleil? Servent le soleil, la lune, les étoiles? Ils servent pour fixer les Moadim, les rendez-vous avec Hachem, pour fixer le calendrier, les jours, les années, etc. Et puis aussi, comme dit Rashi, Ve'odzot yishamshu, ils ont encore une autre fonction. Ils vont aussi éclairer. C'est-à-dire, le fait qu'ils éclairent, c'est une espèce de... C'est un sous-produit, quoi. C'est
une option.
Oh, ils vont le faire, mais c'est pas le Icar. Donc la Torah, elle voit les choses complètement différemment. Fixer les jours, maîtriser le temps, ça a un impact sur les mitzvot, sur la Torah. Ça va fixer la Shemitah, les années sabbatiques, les Yovlot, etc., le Shabbat, le Moadim, etc. Ça touche tous les mondes. Par rapport à ça, le fait d'éclairer, c'est secondaire. Adam Harishon, sa compréhension du monde était fabuleuse, comme on l'a vu. Il a tout compris. Partout. Mais créer des mondes, ça, il ne le pouvait pas. Ça ne lui a pas été donné. Il l'a voulu l'obtenir, il ne l'a pas eu. Et ça, ça a été donné au clan d'Israël. Eux ont mérité, ils ont eu accès à cet instrument extraordinaire avec lequel le monde est créé. Et donc, ils sont devenus créateurs de monde. C'est marqué, enfin les Mishnayot, c'est marqué, « Atid HaKadosh Baruch Hu la tête le kol tzadik ve tzadik » Dans le futur, HaKadosh Baruch Hu donnera à tous les tzadikim, à chaque tzadik, il lui donnera « Shai Olamot » « Shai Shin Yud Olamot » c'est-à-dire 310 mondes. Comme c'est marqué dans le pasuk, le hanchil ohavai yesh. Pour donner en héritage à ce que j'aime et ce qui m'aime, yesh de la réalité, du réel, yesh, de l'ilia, si vous voulez. Mais ilia, yud shin, c'est shin yud, c'est la gematria, donc c'est 310. D'où vient, qu'est-ce que c'est que ces mondes qu'Hachem va donner au tzadikim? On va donner un ticket, qu'est-ce que ça veut dire? D'où viennent ces mondes? Ben justement, ils viennent du travail fait par le tzaddik sur terre. C'est les mondes que le tzaddik aura créés. Et le tzaddik crée des choses qui sont yesh, qui ont une réalité. Il y a vraiment quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de prophéties. On n'a plus besoin de Ruach HaKodesh, d'inspiration, etc., et d'avoir accès à toutes ces choses extraordinaires. Tout ça, ça nous a été donné dans la Torah. Et grâce à l'étude, on peut fixer la halakha. La halakha, c'est pas seulement la halakha, c'est la shon hilouch, déplacement. C'est pas simplement les règles de déplacement de l'homme, c'est les règles de déplacement du monde, c'est la vie, puisque la mobilité, ce qui est mobile, la vie et le fait que les choses bougent, c'est la même chose, enfin, c'est un signe de vie, quoi. C'est au point qu'on ne s'occupe plus d'un bas de colle. Même si Hachem nous envoie un message, ce qu'on appelle un bas de colle, c'est-à-dire une voix, on s'en occupe pas. Halakhiquement, on s'en occupe pas. Rabbi Nissim, il explique dans Bamba Metzia, que quand on a cette fameuse Gemara où on dit, Rabbi Yeshua a dit que la Torah n'est plus au ciel et donc on s'occupe plus de bas de col, Hachem ne peut plus intervenir dans nos décisions halakhiques. Alors du coup, si la bat kol ne sert à rien pour clarifier les situations, alors pourquoi Hachem envoie des bat kol? Lui dit, Benu Nissim, donc c'est un des grands maîtres espagnols du Moyen-Âge, il dit, quand on dit Yarda bat kol, il y a un bat kol qui est descendu, qui est venu, lui dit, Haya kede lenasot. Et Chazal, im yatu midatam, alede abat kol, ol, o, im yiskeru, ki ein navir ashay lechadesh davar meata, achrei shnitna lanu Torah. Torah nitna lanu legamre. Hakol yesh lanu kan. Ça veut dire, Rabbeinu Nissim dit, c'était une épreuve. Ce bat kol, c'est une mise à l'épreuve de nos maîtres, des Tanaïm, des Amoraïm, etc., pour savoir est-ce qu'ils ont compris ce que ça veut dire que la Torah nous a été donnée. Ou est-ce qu'ils vont se laisser encore influencer par le ciel. Est-ce qu'ils ont intégré cette chose impensable, si vous voulez, presque. C'est fini, tu nous l'as donné, c'est nous les maîtres. Nous, on fixe la halakha comme nous voulons, et tu peux faire pencher les murs, tu peux faire remonter les ruisseaux à leur source, etc. Tout ça ne nous impressionne pas. Oui, ça nous impressionne, mais ça ne changera pas la halakha. L'obashamaïmi, la Torah n'est plus dans les cieux, dans le ciel, elle ne t'appartient plus. Ce par quoi on crée, la façon de créer des mondes, c'est par le biais des mitzvot. Tout ce que Adam Harishon a compris grâce au fait qu'il était Tselem Elokim, qu'il avait Ruach HaKodesh, etc., tout ça, Shlomo HaMelech, il l'a appris dans la Torah. C'est marqué. Dans le pasouk, c'est marqué que Shlomo HaMelech, il était Vayerkam Mikol HaAdam. Il était plus Chacham que tout l'homme. Pourquoi c'est marqué? On aurait dû dire Vayerkam Mikol Adam. Pourquoi c'est marqué Mikol HaAdam? Chazal dit, ça veut dire qu'il était plus Chacham que Adam Harishon. L'homme par excellence. Mais il l'a eu avec la Torah. On dirait, c'est ça que le Ramban dit. Donc, le Ramban, lui, il donne un peu l'impression de savoir où dans la Torah Shlomo a appris tout ce qu'il sait. Shlomo, il connaissait par exemple le chant des oiseaux. Où dans la Torah c'est marqué? D'où dans la Torah on peut tirer une connaissance sur le chant des oiseaux? Il semble que peut-être le Ramban, lui, il avait une idée de ce que c'était, d'après la façon dont il présente les choses. Nous, on ne sait plus aujourd'hui. Enfin, je ne connais personne qui sache. Ibn Ezra dit, dans un commentaire sur qui dit ça, il dit « Reke Moach », il dit littéralement ceux qui ont vide du cerveau, quoi. Crétins. S'étonne. Qu'est-ce que Moshe a fait pendant 40 jours? Jour et nuit. Qu'est-ce qu'il a fait aussi là? Qu'est-ce qu'il faisait là-haut? Ils ne savent pas que même si Moshe Rabbeinu était resté 100 000 fois plus longtemps, il n'aurait pas pu connaître même un infiniment petit de ce que sont les actions d'Hachem, la façon dont il gouverne le monde, et de ce qu'il y a derrière toutes les mitzvot qu'Hachem nous a ordonnées. Moshe Rabbeinu il a eu accès à toutes sortes de secrets qu'Hachem lui a dévoilés au Sinaï. Mais à la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu lui dit, Ata achilota l'arot et abdecha et golcha. Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Tout ce qu'Hachem lui a montré, tout ce que Moshe savait, il dit, à ce sujet-là, il dit, c'est un commencement de dévoilement. Et malgré tout, on voudrait quand même savoir comment la Torah nous qualifie, comment est-ce que la Torah nous rend capable d'être des Yotzrei Olamot? Comment est-ce qu'elle nous donne, la Torah, ce que même Adam Harishon avant la faute n'avait pas? Il dit ici que le Chacham Yavetz, le Chassid Yavetz, qui est un des commentateurs espagnols de Pirkei Avot, il dit sur la Mishnah où Ben Azai dit Everatz la mitzvah kala kachamura, c'est-à-dire court pour accomplir les mitzvot qui te paraissent des mitzvot légères, des mitzvot de peu moins importantes, comme tu cours pour les mitzvot les plus importantes. Alors il dit la chose suivante. Il dit Adrech Haemet, en vérité, Ben Azaï nous dit quelque chose de très très important concernant la mitzvah du Yichud, concernant la mitzvah de l'unité, de reconnaître l'unité d'Hachem, l'unité et l'unicité d'Hachem. C'est que les mitzvot que Elohim nous a donné, les mitzvot divines donc, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est très élevé, mais on vient nous dire qu'elles sont toutes liées les unes aux autres. C'est-à-dire que de la même manière que Hachem est Echad, de la même manière la Torah d'Hachem est Echad aussi. Sa Torah aussi est une. Il y a 248 mitzvot positives qui correspondent aux 248 membres du corps, dans le corps de l'homme. Et 365 tendons, guidines, qui correspondent aux 365 mitzvot, l'ota assez, ce qu'il ne faut pas faire. Mais pourquoi cette image? Parce que tout ça, ça forme un tout, c'est l'être humain. Le corps des mitzvot et le corps de l'être humain sont structurés de la même manière, ils sont organisés de la même manière. L'homme, il est Betselem Elohim, c'est-à-dire il contient tous les mondes. Tout est inscrit en lui. Il est, c'est ça être Betselem Elohim, à l'image d'Elohim. Mais la différence, c'est que la Torah, le corps de la Torah, il n'est pas Betselem Elohim, il est Betselem Hashem. Il est Betselem, le tétragramme, pas Elohim. Le nom le plus élevé. Le tétragramme, c'est ce qui fait être. Aya, ove, viye, umehave, akol. Il est, il était, il sera, et il fait être les choses. Il donne la durée, l'existence, la durée aux choses. C'est-à-dire, toute la Torah, c'est un ensemble de tous les noms divins, mais tout ça, en fait, c'est tissé autour du tétragramme. C'est la Torah d'Hachem. Donc, elle a une parfaite unité. C'est marqué « Ve'a Torah ve'a mitzvah ». On aurait dû dire « Ve'a Torah ve'a mitzvot ». Ou qu'on dit « Ve'a mitzvah et la mitzvah ». Parce qu'en réalité, toutes les mitzvot forment une grande mitzvah. Toutes les mitzvot sont liées les unes aux autres. Et quand le cœur de l'humanité, en fait, dit-il, lorsque ce cœur de l'humanité sera, enfin, le cœur de l'humanité, mais en sens de Hatzelem Ha'enoshi, c'est-à-dire de la forme humaine, aura la forme divine qu'est la Torah, à ce moment-là, on sera parfaitement unifié. Dans le Tselem Elohim, on l'a répété, tous les mondes sont inclus. L'homme, d'une certaine manière, lui aussi, il est Balko, puisqu'il est Tselem Elohim, il est Balko la Kochot Kula. Il est le maître de toutes les forces. Il y a en lui toutes les forces. Mais avec le Tselem Elohim seul, on ne sort pas du monde. On est encore dans le monde. L'homme récapitule en lui tout le monde, mais il ne sort pas du monde en étant Tselem Elohim. La Torah, elle est Tariag Mitzvot, et 613 Mitzvot, c'est une entité qui est bien au-dessus de tout ça. C'est en ça qu'on dit, quand je pourrais créer le monde en regardant la Torah. La Torah n'est donc pas dans le monde. Elle est le plan du monde. Elle est au-dessus de tous les mondes. Sont les noms divins, en fait. Cette Torah-là, elle a été donnée au Bnei Israël. On dit, Vekeravtanu l'shimcha gadol, c'est la même. Tu nous as approché de ton grand nom. Shimcha gadol, avakadosh, aleinu karata. Ton grand nom, ton saint nom, tu l'as mis sur nous. Comment? Torah. L'homme qui accomplit la Torah, qui étudie la Torah et qui accomplit les Tarim Mitzvot, il a une forme, il acquiert une forme bien plus élevée que tous les hommes, que tous les mondes. Ça continuera de contenir en lui, mais il domine les mondes. C'est ça qui lui est... Il ne s'agit pas simplement de dominer au sens où on domine dans ce monde-ci, comme ça a été dit à Otselem Elohim, vous dominerez les poissons, etc. Ça, c'est la domination au sens habituel du terme. Mais avoir un Tselem qui correspond non pas à Elohim, mais au Shem Havaya, au tétragramme, ce qui lui permet d'être quasiment Davouk Bashem, permet à l'homme d'être quasiment collé à Hashem. Et grâce à cette élévation, grâce à cette situation-là, il a accès à l'interrupteur général dont on avait parlé précédemment. C'est ça, créer des mondes. Tant que l'homme reste dans le monde, tant qu'il est seulement dans le monde, même s'il inclut le monde entier, mais il n'a pas encore un tselem du nom divin, du tétragramme, et donc il ne peut pas créer. Ça veut dire que les mitzvot, en vérité, que nous faisons, quand on les fait de façon parfaite, alors, elles sont ces mitzvot. Elles sont là une réalité qui, cette réalité, on peut l'appeler membre, c'est-à-dire Evarim, Egidim, spirituel. Dans le monde spirituel, on fabrique cette réalité d'un corps. Celui qui accède à ça, effectivement, il crée des mondes. Crée des mondes exactement comme ça a été dit au sujet de Betzalel. Betzalel, c'est celui qui a construit le Mishkan. Et de Betzalel, on dit... Shiyada le tsaref otiyot shebaen nivrao shamaim vaaretz. C'est pas seulement qu'il a compris shamaim vaaretz. Il c'est pas qu'il a lu, ah, c'est comme ça. Il savait. Il le savait aussi parce qu'Adam Rishon le savait. Mais lui, il savait comment les combiner, ces lettres. Il savait donc créer les mondes. Et il a créé le Mishkan, c'est une création. Le Mishkan, c'est un monde en petit. Il a créé ce mini-monde ou ce tableau de bord du monde. Il savait, lui, faire ce qu'Hachem a fait quand il a créé les choses, les mettre ensemble. Pas voir qu'elles sont ensemble, mais les mettre ensemble. Il savait comment les mettre ensemble. On pourrait imaginer que les mettre ensemble, ça veut dire... peut-être vaincre, si on imagine les lettres comme des... ou des atomes, ou des particules, il faut savoir comment on peut les mettre, parce que, disons, du point de vue électrique, ou magnétique, etc., ou du point de vue des autres forces, on ne peut peut-être pas les mettre facilement ensemble. Il n'y a qu'une certaine façon, que d'une certaine manière qu'on peut les assembler. Si on essaie de les assembler autrement, ben ça ne marche pas. Comme si vous voulez, comme si vous avez des champs magnétiques qui se repoussent. C'est impossible, je ne vais pas les mettre. Mais si, il faut savoir comment les mettre. Il y a une possibilité de les mettre. C'est ça, Yada le Tsaref. Il savait comment. Le Tsaref, ça veut dire à la fois ajouter, mais ça veut aussi dire purifier. C'est-à-dire, il fallait peut-être savoir comment purifier certaines lettres pour qu'elles puissent aller ensemble. Peut-être qu'il faut leur faire subir un certain traitement pour qu'on puisse les mettre ensemble. Ça, Hachem le savait. Ça, Betzalel le savait, mais et Adam ne le savait pas. C'est ça, Yada le Tsaref, c'est par la Torah. Et ça, et lui, il savait faire ça dans un monde qui est le monde ordinaire, c'est-à-dire le monde qui était plein de fautes et et le mal était là, etc. Il savait faire ça. Pourquoi il savait le faire? Parce que Hachem le lui a ordonné. Pour pouvoir faire ça dans un monde pareil, il faut qu'Hachem vous l'ait ordonné. Tout ça, ça lui a été donné à Matan Torah. Encore une fois, on n'a pas besoin de prophétie, on n'a pas besoin de roi HaKodesh. Tout est déjà là. Ce qu'on a besoin, c'est de le voir dans la Torah. C'est très possible que on étudie la Torah toute sa vie, qu'on fasse les mitzvot, mais qu'on ne reconnaisse jamais la hauteur, la grandeur de la Torah. Bien sûr, quand on étudie, on fait les mitzvot, c'est très bien, on s'élève, on se purifie, on enlève les scories. Mais celui qui s'est à ce point purifié, qui a à ce point éliminé les scories, qu'on peut lui dévoiler la hauteur, la grandeur de la Torah, ça c'est le top niveau en fait. Pour ça il faut un espèce de roi HaKodesh, même après Matan Torah, même après le don de la Torah. David HaMelech, dans Tehilim, il dit Gal Enai, dessine mes yeux, c'est-à-dire ouvre mes yeux, Ve'abita Niflaot Mitoratecha. Et je verrai des choses, Niflaot, c'est des choses extraordinaires dans ta Torah. Le Midrash dit comme ça, sur ce verset. David HaMelech a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, tu veux que je garde tes paroles, tu veux que j'applique la Torah, Gal Enai Ve'abita Niflaot Mitoratecha. Alors, ouvre mes yeux, que je vois les dimensions extraordinaires de ta Torah. Ve'im Eina Tagolet Enai Minayin Ani Yodea. Et si tu n'ouvres pas mes yeux, d'où saurais-je? C'est pour ça qu'il a dit, Gal Enai Ve'abita. Si, ouvre mes yeux, à ce moment-là, je verrai, je serai capable de voir. Et après, il dit, et même quand mes yeux sont ouverts, si moi j'ouvre mes yeux, je ne sais rien. Ça veut dire quoi? Midrash dit, regarde, Shmuel a Navi, le prophète Shmuel. Il ne savait rien avant qu'Hachem ne lui dévoile, lui ouvre ses yeux et ses oreilles. David aussi dit, si tu n'ouvres pas mes yeux, je ne verrai rien. Il y a des psukim, qui disent que la Torah c'est niflaot, pliot, choses extraordinaires, etc. C'est un trésor, bon, il faut avoir la clé pour entrer dans... Il y a beaucoup de portes. Mon cher Abbé nous vient... Et il dit pas du tout. Il dit sur la Torah, Ena niflet, lo nifleti mimcha. Elle n'est pas extraordinaire. Mimcha, c'est simplement ça. Elle va procéder de toi. Pourquoi est-ce qu'elle t'apparaît extraordinaire? inaccessible. Chez l'homme mal tabac, parce que tu n'as pas travaillé. Tu t'es pas fatigué à l'étudier. C'est pour ça que c'est marqué Niflaot mitoratecha. Quelque part, c'est encore la Torah d'Hachem. Mais quand tu travailles, ça devient ta Torah à toi. C'est terrible. David Ameler, il supplie Hachem de lui ouvrir les yeux. Parce que cette Torah, elle est extraordinaire. Donc, mais extraordinaire au sens de inaccessible. Et Moshe Rabbeinu vient, il dit pas du tout. Et on comprend. C'est sûr que la Torah est extraordinaire, c'est vrai. Elle est impensable. Être tselem d'Hachem, tselem du tétragramme, être tout entier, la Torah c'est entièrement des noms d'Hachem, au-dessus de tous les mondes. Moshe Rabbeinu vient et dit, pas du tout. Lo nifleti mimcha. Elle n'est pas extraordinaire au sens, elle n'est pas inaccessible. On peut comprendre, on peut entrer dans toute la profondeur de la Torah. Ça dépend, amaleinu vigiatenu batora. Ça dépend des efforts qu'on fait dans la Torah. Bien sûr, il faut qu'Hachem ouvre les yeux, ouvre nos yeux pour qu'on voit, mais on peut obliger Hachem à ouvrir nos yeux. Parce que la Torah, Hachem nous a donné la Torah pour ça. Dans la Torah, c'est marqué, elle n'est pas « l'onifleti mimcha ». C'est ça la puissance de l'étude de la Torah. C'est que c'est vrai qu'il faut que Hachem m'aide, mais Hachem, en quelque sorte, il est prisonnier, il s'est engagé à m'ouvrir les yeux si j'étudie ce qu'il faut, si je fais des efforts. Ça veut dire, on peut créer des mondes, ça dépend de nos efforts. La Torah ne voulait pas aller chez Adam Harishon. Elle ne voulait pas. Parce que il y avait une épreuve à passer et il ne l'a pas passée. En fait, ça n'épuise pas la chose puisque elle ne voulait pas y aller. C'est-à-dire que le fait qu'il ait eu une épreuve, c'est ça son imperfection. Il est créé avec le moyen de se qualifier, mais il y a une épreuve. Il n'a pas réussi. Du coup, la Torah, ok, elle dit, bon. À ce moment-là, la Torah est d'accord. Ok, je vais aller chez lui maintenant. Maintenant qu'il n'a pas réussi, il est obligé d'en passer par là. Le Ramchal explique dans Da'at Tvunot, Moshe Chaim Lutzato, que si Adam Harishon avait passé l'épreuve, On aurait assisté à ce qu'on appelle Tikkun HaOlam. Le monde aurait été réparé complètement. Toute la guerre qu'on doit faire contre le Yetzer Hara pendant ces 6000 ans, toute la vie, quoi. Tout ça, Adam Harishon, il pouvait nous l'épargner avec un instant. Immédiatement, on serait arrivé à Achrit HaYamim, c'est-à-dire, on aurait été immédiatement derrière les jours, après les jours. Les jours sont là, et puis nous on parle d'Achrit HaYamim, c'est à la fin des temps. Mais lui, il aurait été tout de suite derrière les temps, à la fin des temps. C'était tout de suite Mashiach. Théâtre Métim, etc. On dit, s'il avait réussi, la Torah aurait été d'accord d'aller chez lui. Mais qu'est-ce qu'il y avait? On n'a plus besoin de la Torah. Quand on est à Triat HaMetim, on n'a plus besoin de la Torah. Ça veut dire qu'elle est d'accord d'aller chez lui. On n'a plus besoin. Il faut comprendre. Quel besoin a-t-on encore à ce moment-là de la Torah? Dans la situation de Triat HaMetim, après la résurrection des morts, on a encore besoin de la Torah? Est-ce qu'elle va nous donner la Torah à ce moment-là? On comprend de ce chazal qu'on en a besoin, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on aura besoin à ce moment-là aussi de la Torah? Nous, on a besoin de la Torah parce qu'on a un Yetzerara. Il n'y a pas d'autre moyen de rendre le Yetzerara comestible, parce qu'on doit le rendre comestible, puisqu'on doit servir Hachem avec le Yetzerara aussi, que la Torah. Parce qu'Hachem a dit, j'ai créé la Torah, j'ai créé le seul... Seule épice qui peut rendre le, qui peut travailler le Yetzirah de telle sorte qu'il devienne comestible, c'est la Torah. L'existence du Yetzirah, c'était ça l'argument de Moshe pour, quand il a discuté pour prendre la Torah alors que les Malachim ne voulaient pas. Quand il était en haut, il a dit, mais la Torah, qu'est-ce que vous voulez faire de la Torah? Vous avez un Yetzirah, vous? La Torah, elle vous sert à rien. La Torah, elle est adéquate pour nous, parce que nous, on a Yetzirah. Mais en fait, c'est pas vrai, puisque il faudra... Enfin, pas vrai. Oui, enfin, on comprend pas. Puisqu'à Triat HaMetim, on aura encore besoin de Torah. C'est marqué dans le Kohelet. Viendront des années où tu diras, j'ai aucun désir dans ces, de ces années. Et on dit, c'est les temps messianiques. Dans les temps messianiques, on ne pourra plus acquérir de mérite et on ne pourra plus acquérir de démérite non plus. Alors, à quoi sert la Torah? Et donc, c'est la même question. Si Adam Harishon avait passé l'épreuve, la Torah aurait été d'accord d'aller chez lui, mais à quoi elle aurait servi? Ce qui semble de là, dit le Ravolbé, c'est que nous, on est impressionnés parce que la Torah nous ouvre comme horizon, et tout ce qu'elle nous dit dans tous les sujets, etc. Ici, on apprend à connaître tous les niveaux que la Torah englobe. C'est-à-dire, la Torah englobe la période d'existence du Yetzirara, c'est-à-dire quand on est dans un environnement avec des assassins, avec des violeurs, etc. Là, on vient, là, en takana et la Torah. Là, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que la Torah. Mais après, Yemota Mashiach et Triat HaMetim, là non plus, on n'a pas d'autre solution qu'avec la Torah. Donc c'est aussi, cette madrigala, elle est aussi incluse, englobée par la Torah. Toutes les périodes de la création sont englobées par la Torah, puisque tout ce qui a été créé n'a été créé que à partir de la Torah. Donc la Torah, elle englobe tout, toutes les périodes. Sur la période de Tov Vera, ça dépend des 6000 ans, Rabbi Israël Salanter écrit à ce sujet-là, « Kol avodat ha'adam » tout le travail de l'homme à ce moment-là, c'est-à-dire la raison pour laquelle, à ce moment-là, on doit considérer qu'on est venu pour cela dans le monde, c'est de lutter contre le Yetzirah. C'est la fonction de l'homme. L'homme est là pour lutter contre le Yetzirah. Et il cite son maître aussi, Rabbi Rucham, alors, kol atzlachatenu ale admut, irak metziuta yetzer ve milchama negdo. Toute notre réussite sur terre, elle n'est rendue possible que par l'existence d'un Yetzerara et de l'obligation de faire la guerre contre ce Yetzerara. Mais si, par exemple, il n'y avait pas de Yetzerara, on aurait dû l'inventer, parce que sinon, sinon on ne sert à rien. On aurait dû l'inventer pour lutter contre lui. Donc, d'une certaine façon, le Yetzerara, c'est ce qui me pousse à m'élever. Toute notre élévation, elle est due, si on peut parler comme ça, au Yetzerara. S'il n'y avait pas de Yetzerara, on ne s'élèverait pas. Il n'y a pas de lutte, donc on ne ferait rien. Donc, tous les plus grandes, toutes les générations, tous ceux qui se sont élevés, tous ceux qui sont devenus, je ne sais pas, le Rav Etzraïm, le Chazonish, jusqu'à Avraham Avinu, leur élévation n'a été rendue possible que grâce au Yetzerara et à la guerre qu'ils ont menée contre lui. Le Yetzerara qu'il y avait en eux, c'est ça qui les a, quelque sorte, aider à s'élever, pousser à s'élever. Comme Hachem a dit, Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé l'Yetzerara et j'ai créé la Torah comme seul moyen de le rendre comestible. Donc, si on réfléchit, on se rend bien compte que c'est l'existence du Yetzerara qui est donc le seul moyen, c'est le seul moteur, en quelque sorte, de notre étude de la Torah. Et donc, il ne faut pas du tout avoir peur lorsque le Yetzer Hara nous attaque. Surtout, pas s'imaginer qu'on est perdu. Et cesser d'étudier, j'y arrive pas, etc. C'est exactement le contraire. Le Yetzerara n'est là que pour créer une soif et une faim de Torah. Qu'est-ce qu'on aura gagné si on arrête d'étudier à cause du Yetzerara? Il est là pour ça. Il est là pour générer de la faim et de la soif pour la Torah. C'est ça donc la place qu'on a, la place de la prira. La prira, c'est comprendre. Donc le choix qu'on a à faire, il passe par la compréhension de ce que c'est vraiment que le Yetzerara. Savoir que le Yetzerara, essentiellement, il est quelque chose qui me pousse à la Torah. Sauf que l'homme a le choix de céder et de ne pas lutter contre le Yetzerara, qu'il ferait grandir, de lui céder, et éventuellement même de lui céder la place. Bon, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, je ferai ce que tu veux, ça veut dire. Fais ce que tu veux, ça veut dire, je ferai ce que tu veux. Et donc, il peut complètement se fourvoyer. Exemple. Par exemple, mais pour illustrer les choses. Un enfant qui n'a pas mangé à midi. Un petit enfant, il n'a pas mangé à midi. Voilà, maintenant il va avoir faim. Dans l'après-midi, il va avoir faim. Alors il va venir vers sa mère et il dit, « Maman, donne-moi un bonbon. Maman, donne-moi un morceau de chocolat. Donne-moi un morceau de gâteau. Achète-moi une glace à boire, etc. » La mère, elle sait que la raison pour laquelle il demande tout ça, c'est parce qu'il a faim en réalité. Parce qu'il n'a pas mangé. Il fallait manger. Mais l'enfant lui-même, il n'en a aucune idée. l'enfant lui-même, il ne sait pas que son envie de bonbons, de chocolat, etc., vient de ce qu'il n'a pas mangé. La faim peut s'exprimer de toutes sortes de manières, par un désir pour des bonbons, etc., qui vont d'ailleurs pas du tout calmer la faim. Ça ne va pas résoudre le problème.
C'est un substitut.
Oui. C'est-à-dire, en fait, arriver à exprimer la faim de la bonne manière, c'est-à-dire en mangeant du pain, en mangeant, qui mange sa soupe, quoi, comme on dit, pour ça, il faut être un adulte. Bon, ça ne marche pas tout le temps non plus. En Ruchaniut, en spiritualité, c'est comme ça aussi. Le Yetzer Hara, en vérité, c'est une fin avec A. C'est une fin pour la Torah. Seulement, il s'exprime sous forme de ta'avot pour toutes sortes de choses. Mais y compris le kavod, je veux manger ça, ce qui est interdit, et ça. Il faut être un Adam Gadol, il faut être un adulte, du point de vue spirituellement, pour se rendre compte du pourquoi de ce désir-là. D'où elle vient cette table? Ça vient de la fin. La fin de Torah en réalité. Et si ce n'est pas de la Torah que tu lui donnes, ben il ne sera jamais rassasié. Comme l'enfant, tant qu'il n'aura pas mangé du pain et sa soupe, il ne sera jamais rassasié, il ne va pas être rassasié construit par la nourriture. Enfin, il sera vraiment nourri seulement quand il aura mangé des vrais nutriments et pas des bonbons, des trucs, junk food, etc. Ce qui est marqué dans Michelet, Imraav sonacha, si ton ennemi a faim, c'est-à-dire l'ennemi c'est Yetzer Hara, ou lechem, donne-lui à manger du pain. C'est quoi? Le pain c'est l'achma shel Torah, le pain de la Torah. Vous savez, le lechem, le mot lechem, c'est les mêmes lettres que dans Milchama, la guerre. La guerre, ça se dit même, Lamed, Chet, même. Le même d'avant, et puis après Lechem. L'Achma shel Torah, le pain de la Torah, c'est la guerre contre les Tzara. Allô? Et non, je suis encore en cours. Je t'appelle dans quelques minutes. Je t'appelle. Parce qu'en fait, l'ennemi en question, il a faim de Yetzirah, en fait, il a faim de Torah. Il a faim de cette guerre. Lui, il désire être vaincu au fond. Il a été créé pour ça. Il doit se battre comme s'il voulait gagner, un peu comme l'ange qui lutte contre l'ange des Saves qui lutte contre Yaakov. Il se bat à fond. Mais sa réussite, puisqu'il est au service d'Hachem, sa réussite c'est quand Yaakov a réussi à le vaincre. Bon, mais il n'a pas le droit d'aider Yaakov, parce que sinon Yaakov n'aura pas vraiment gagné. Il faut qu'il se batte comme s'il voulait gagner, mais il sait que lui, il aura vraiment gagné dans son rôle d'ange au service d'Hachem que quand Yaakov aura gagné. Et les tzadikim dans toutes les générations, ils le comprennent. Et quand leur Yetzer Hara les attaque, Alors, ils en profitent en Galate. Ils savent, ah, c'est une occasion de m'élever dans la Torah. Ils savent reconnaître que le Yetzer Hara, au fond, c'est création d'Hachem. On pourrait dire, au fond, il ne peut pas être totalement mauvais. Il est totalement mauvais au sens où il se présente à moi comme totalement mauvais. Mais sa fonction, ultimement, c'est de faire réussir l'homme. Donc lui aussi veut la Torah. Il doit produire de la Torah à sa manière. Après la période de Tov Vera, bien et du mal, alors on est presque sur le seuil des Yomot HaMashiach, des temps messianiques. Chazal disent que la fin pour la Torah, en fait, va toucher tout le clan d'Israël. Jusque-là, ça ne touche pas tout le clan d'Israël. La fin pour la Torah touchera tout le clan d'Israël à ce moment-là. À ce moment-là, il y aura une vraie révolution. Kulam Yakiru, tous reconnaîtront. Ils reconnaîtront que les choses qui sont construites directement par les Yetzer Hara n'ont pas de durée. Construire, à ce niveau-là, c'est détruire. C'est une destruction. Sans Torah, sans référence au Créateur, on ne peut pas construire le monde. On ne peut pas vivre une bonne vie. Et plus on s'approche du temps messianique, plus la chose se révèle. Au point qu'à un moment donné, tout le monde s'en rendra compte concrètement. Il viendra un moment où effectivement, quand on aura compris tout ça, alors viendront ces fameux jours où Hachem dira « Ine yamim ba'im neum Hachem Elokim vishlachti ra'av ba'aretz » J'enverrai la famine dans la famine sur terre. « Lo ra'av l'alechem velo tsamel la'maim » Mais pas une famine pour du pain et une soif pour de l'eau. « Kim lishmoa et dvar Hachem » C'est Amos, le prophète Amos qui dit ce sera une soif et une faim pour entendre la parole d'Hachem. Donc il y aura, en fait, un dévoilement de Torah. À ce moment-là, tout le monde verra clairement que sans Torah, on ne peut pas vraiment vivre, en fait. Voilà, on va s'arrêter là, je continuerai, Mirtz Hachem, jeudi.
Merci beaucoup.
Oui.
Non, mais nous serons là. Ah, mais
Mais de ne pas entrer dans son jeu, c'est aussi une façon de résister au Yetzer Hara. C'est de dire, ouais, je te vois arriver avec tes gros sabots.
Oui, mais est-ce que justement, enfin, ce que je me demande, c'est est-ce que finalement l'énergie de rentrer sans y rentrer, enfin, de résister, n'est pas plus forte, plus on est dans le danger, que de, si je rentre pas du tout, voilà, très bien, j'ai eu la partie, mais en fait, j'ai pas fait le travail.
Mais ça, c'est la fameuse histoire de Yafshi Bepsar Chazir. Il ne faut pas dire je ne veux pas, j'aime pas le porc, mais j'en mangerai volontiers, mais Hachem me l'interdit. Et ça, ça dépend des mitzvot qui sont sikhliot ou les mitzvot qui sont les mitzvot auxquelles je serais arrivé même si la Torah ne m'avait pas été donnée. C'est-à-dire le fait qu'il ne fallait pas tuer, voler, etc. Je peux comprendre tout seul. Et puis il y a les mitzvot, chatnez ou bassar bechalav, ou le porc. Si Hachem ne m'avait pas interdit, ben pourquoi je n'en mangerais pas? Il n'y a absolument aucune raison de ne pas en manger. Pourquoi je ne mettrais pas des vêtements de lin et de laine? Si je trouve ça beau, pourquoi pas? Il y a un problème pour le nettoyage, hein, le nettoyage à sec. Bon, mais ça, c'est la différence. À l'occasion, si on peut en reparler de ça. Ça, c'est la différence entre les deux attitudes différentes. Dans un cas, le Rambam dit, effectivement, il faut pas entrer en matière du tout. Quand c'est le Sechel qui te dit que tu ne dois pas, mais tu ne dois pas. Par contre, quand c'est la Torah seulement qui te dit, alors, tu dis oui, je mange volontiers, mais c'est interdit. Donc le problème des harayot, là, c'est un problème de savoir. Quand c'est harayot, alors c'est un peu ambigu parce que il y a des choses qui sont uniquement interdites par la Torah. Si la Torah n'est pas interdite, je ne vois pas pourquoi ce serait interdit. Mais la femme de l'autre, la femme de quelqu'un d'autre, ça, c'est pas évident, parce que ça touche, pour l'égoïme, ça touche peut-être au vol. Il prend la femme de Potiphar. Alors bon, Potiphar, c'était pas très clair, parce que si ça se trouve, il était déjà tsariste, il était déjà... Potiphar, il n'était pas très net non plus lui-même. Il avait des tendances un peu spéciales. Comme Yosef était beau, il avait essayé de trucs et donc il a eu des problèmes. Et donc, ça se trouve. Pardon ?
Il a été castré.
Voilà. Il était à Cuba, donc, castron. Ah, voilà. Quand même, je vais vous demander un truc.
Oui ?
Est-ce qu'André, il sera à New York au mois d'août ?
Encore au mois d'août, peut-être, oui.
Parce qu'éventuellement, vous lui envoyez quelqu'un pour quelques jours chez lui, si c'était possible.
C'est oui.
Le cas échéant, je veux dire, on lui demandera, bien sûr, mais s'il n'est pas au début août, s'il n'est pas à New York, ça ne m'intéresse pas, je veux dire.
Non, au début août, normalement, il devrait encore y être.
D'accord. Bon, alors, je prends des contacts avec
vous.
Oui.
Pas à partir du 15 août.
Oui, c'est ça, bon, mais la personne en question, elle a un vol retour le 12 août, donc. Non, c'est une jeune fille que je voudrais envoyer qui va aller en Amérique et puis ensuite elle ne va pas à New York. Après, elle rentre à New York, elle veut passer à New York quelques jours, si c'est possible.
Le Khatrina, il n'y a pas de problème.
Hein. Oui, on va voir. Je vous appellerai pour vous.
Je ne veux pas dire, je ne veux pas être prophète.
Non, pas du tout, mais soyez.
Oui, je ne sais pas.
Non, mais je l'appellerai. Je vais
lui téléphoner demain.
Oui, non, je vais lui téléphoner demain ou un autre jour, mais c'est un peu pas. Je vais téléphoner. Vous pouvez me donner son numéro ?
Oui, alors, c'est le 001.
Oui.
346 347 7884.
Donc, 340. Oui.
Alors, 001.
Oui.
346-347, je m'en assure. On est 832-85-98.
Un instant. Ça, c'est le portable, alors.
Et ça, c'est le portable. Alors, le fixe, je crois que je vous l'ai donné.
Mais le fixe est 346-347.
Oui, c'est ça.
Mais pour le portable, il me manque trois chiffres pour le portable.
Oui, alors 832. Alors attendez, 001. Attendez, excusez-moi parce que je le fais machinalement. Ah ben non, je sais comment le faire, je le fais. Pour le portable, je vous le donne tout de suite.
Oui.
Ça y est, j'ai la solution. Attendez, ça y est. Alors, 347. Alors, 001. 001.
Oui.
347.
Oui.
832.
Oui.
85, 98.
Ça, c'est son portable à lui, à André.
Oui, c'est le portable à André aux États-Unis.
D'accord.
Le portable américain.
Parfait. Je vous remercie beaucoup.
Bah, écoutez, attendez, il faut que je vérifie le fixe.
Mais je vais l'appeler sur son portable. Je vais l'appeler sur son portable.
Bon, bon, voilà, très bien. Mais a priori, je pense que ça devrait pouvoir se faire.
Merci beaucoup.
Voilà, je vous en prie. Allô,
oui.
La lutte chauvoise, est-ce que vous accepteriez un intrus de très grande qualité, la lutte chauvoise?
De très grande qualité?
Ah oui, quelqu'un que j'estime beaucoup, et croyez-moi, je ne donne pas mes compliments. Vous avez eu le remarquer d'ailleurs.
Oui.
Il s'agit d'un nommé Daniel Ehrlich, qui sera à Paris à ce moment-là. Alors peut-être aura-t-il...
Alors attendez, Daniel Ehrlich, il sera chez son fils.
Ouais, vous connaissez par cœur, ça va.
Non, mais Daniel Ehrlich, l'année dernière... J'avais mobilisé son fils parce que j'avais besoin de lui pour Kriyat HaTorah. Cette année, j'ai pas besoin de lui. Mais cette année, j'ai pas besoin de lui, alors je n'ai pas voulu le déranger, mais s'ils veulent venir, au contraire, ils sont très intéressés.
Bon, bon.
C'est votre avota?
Oui, enfin, c'est plutôt un maître que...
Oui, d'accord, je comprends, mais... Ouais, je comprends, j'en crois pas un mot, mais ça fait rien. D'accord. Oui, non, mais la modestie.
Mais ça, non, là,
entre nous, c'est pas nécessaire.
Heureusement d'ailleurs, parce que j'en ai besoin, je suis pas sûr que je serai à la hauteur de la modestie.
Voilà. Voilà une remarque très modeste. D'accord. Alors attendez, vous le voyez, Ehrlich?
Oui, mais là, je pense qu'il va partir avant Chauvois. Vous voyez, il va partir avant Chabot.
Alors demandez-lui s'il veut venir et qu'il m'appelle. Au contraire, je suis très intéressé. Je n'osais pas le dévoyer parce que je ne sais pas où son fils prie en temps normal. Voilà. Comme
bon, mais écoutez, je vais l'appeler. Hein, je vais peut-être l'appeler à Metz. Il est à Metz.
Il est à Metz.
Je me débrouillerai pour l'appeler avant. Avant qu'il ne parte.
Dites-lui, passez-lui mon numéro de téléphone et qu'il me dise si. Avec grand plaisir.
Bon,
au contraire,
bon,
on est même très intéressés. On a besoin de Minyan Mansion.
Ah, bien. De toute façon, les millionnaires, c'est toujours des gens qui rapportent.
C'est ça. Et ça rapporte pour eux, c'est pour comme ça qu'ils sont devenus millionnaires.
Oui, c'est ça, voilà.
Ok, on vous entend Chabès ou bien pardon, jeudi?
Si Dieu veut, oui.
D'accord, si Dieu veut, ouais. Si Dieu veut et si Kahn veut, comme disait Feinerman.